Au carillon d'Europe 1, il est 22h et c'est Guillaume Lariche qui vous présente les informations. Bonsoir Guillaume.
Ah bonsoir Valérie, bonsoir à tous.
Europe 1 Nuit Week-end. Guillaume Lariche.
Le G7 réaffirme son plein soutien à Israël dans l'attaque de drones et de missiles menée par l'Iran sur l'État hébreu. Sur place, les habitants font preuve de résilience, comme vous pourrez l'entendre. Dans ce journal aussi, le regard de l'ancien Premier ministre de la France, Manuel Valls, sur cette attaque. L'ancien chef du gouvernement craint une montée en puissance des tensions au Moyen-Orient. Sur l'Hexagone, 5 jours après la mort de Zakaria, poignardé à Romans-sur-Isère dans la Drôme, ses proches lui ont rendu hommage ce soir dans le quartier de la Monnaie où le drame a eu lieu. Et puis avec le retour des beaux jours, ils sortent eux leurs couverts, les moustiques tigres enfin, et toute la France est concernée.
Europe 1.
Et pour débuter ce journal, je vous propose tout de suite de faire un retour sur l'attaque menée la nuit passée par l'Iran sur Israël avec vous, Caroline Baudry.
Oui, plus de 300 drones tueurs, missiles balistiques et missiles croisières lancés par l'Iran s'approchent alors d'Israël. Les sirènes retentissent. Le ciel est transpercé par une multitude de boules de feu. Le dôme de fer entre en action. Les roquettes israéliennes fusent pour détruire les projectiles ennemis. Des dizaines d'avions de l'armée lacèrent le ciel, aidés par les chasseurs américains et britanniques. 99% des drones et missiles sont interceptés, annonce l'armée israélienne qui déclare avoir déjoué l'attaque. Certains missiles tombent toutefois en territoire israélien, notamment sur une base militaire précisément visée par l'Iran, celle qui a servi à mener la frappe du 1er avril sur le consulat iranien en Syrie. Bilan humain, un blessé grave, une petite fille et 31 blessés légers dans leur course à la recherche d'un abri.
Israël, où la résilience s'impose chez les habitants, écoutez Arié qui réside dans le nord de l'État hébreu.
Le problème dans ce genre d'action, dans ce genre de jeu idiot, pardonnez-moi, c'est le risque d'une erreur. Un missile aurait pu atterrir en Israël, aurait pu causer des dégâts considérables, auquel cas cela nous aurait obligés à rentrer en guerre. Nous, ici, dans le nord d'Israël, subissons des pluies de missiles quotidiennes depuis avant même le 7 octobre, mais encore plus depuis le 7 octobre, de la part du Hezbollah libanais. Et un jour ou l'autre, malheureusement, il se pourrait qu'un de ces missiles fasse des gros dégâts et nous oblige à rentrer en guerre. C'est là le danger. Cette haine qui s'abat sur nous, tout ça, ça fait mal. Et malgré tout, tout le monde se lève tous les matins et on essaie de continuer à conserver une vie, entre guillemets, le plus normale possible. Le mot résilience, je crois que c'est le mot qui s'applique le plus au peuple israélien actuellement, vraiment.
Réaction recueillie pour Europe 1 par Caroline Baudry. Alors après l'envoi hier soir de plusieurs centaines de drones et de missiles iraniens sur Israël, le G7 a condamné aujourd'hui unanimement l'attaque et affirme son plein soutien à Israël. Les 7 puissances économiques dont la France et les États-Unis font partie appellent à la retenue tout en se disant prêtes à prendre des mesures contre l'Iran si besoin. Un conseil extraordinaire de l'ONU doit avoir lieu ce soir à la demande d'Israël qui n'a pas encore fait connaître sa réponse à l'attaque iranienne de la nuit dernière. Face à cette attaque justement, Gérald Darmanin s'exprime ce soir via Twitter, via X anciennement Twitter, et demande un renforcement de la sécurité devant les lieux de culte et écoles juives de France. D'ailleurs, d'un Premier ministre à un autre, il n'y a qu'un pas pour témoigner de l'actualité brûlante au Moyen-Orient. J'ai le plaisir de recevoir dans Europe 1 New Weekend l'un des anciens Premiers ministres de la France. Bonsoir Manuel Valls.
Bonsoir.
Alors donc, pour rappeler un petit peu qui vous êtes, même s'il n'y a plus besoin de le faire, voilà 10 ans à peu près, vous preniez vos fonctions de Premier ministre de la France, c'était en mars 2014, forcément votre voix compte, et au lendemain justement de cette attaque menée par l'Iran avec plus de 300 drones et missiles qui ont été envoyés en direction de l'État hébreu, ce sera intéressant d'avoir votre regard. Le G7 lui condamne unanimement ce dimanche l'attaque iranienne contre Israël. Est-ce qu'il ne pouvait pas en être autrement, Manuel Valls?
Je crois que c'est important que la communauté internationale condamne ce qui est un acte inédit, c'est-à-dire l'attaque d'un pays, l'Iran, contre un autre, Israël. C'est la première fois en 45 ans d'existence que la République islamique d'Iran attaque ainsi Israël directement avec près de 300 missiles et drones qui ont été certes interceptés par le système de défense israélien, mais qui représente un acte, un choc, un basculement dont il faut, me semble-t-il, prendre toute la dimension de ce que cela représente comme risque, comme danger pour la paix.
Et pour vous, c'est un tournant ?
C'est un tournant historique. Alors, il est vrai que depuis déjà de nombreuses années, les tensions entre l'Iran et Israël existent, nous le savons. Nous savons que l'Iran, d'une manière ou d'une autre, était derrière les attaques du Hamas, par le soutien que ce pays apporte à cette organisation terroriste. L'Iran est très directement derrière les Houthis qui aujourd'hui attaquent Israël et mettent en danger le commerce international qui passe par la mer Rouge et le canal de Suez. Et puis, le Hezbollah agit pour l'Iran contre Israël à la frontière nord de ce pays. Ce sont des dizaines de milliers d'Israéliens qui ont dû être déplacés. Mais cette fois-ci, au-delà de la guerre, on pourrait l'appeler indirecte ou par organisation interposée, c'est une attaque frontale qui ne peut pas nous laisser indifférents et qui oblige d'une manière ou d'une autre à une réaction, car nous savons en plus que l'Iran tente de posséder l'arme atomique.
Alors quand nous on parle d'attaque, l'Iran parle de riposte. Est-ce que pour vous c'est mesuré ?
L'Iran fait référence aux attaques ciblées imputées à Israël, parce que Israël n'assume pas forcément toujours ou ne donne pas d'informations sur ces attaques. Israël s'en est pris d'une manière ou d'une autre, si on considère que c'est lui qui a mené ou c'est ce pays qui a mené ces actions, à ceux dirigeants du Hezbollah ou dirigeants du Hamas, dirigeants évidemment des gardiens de la révolution, le bras politique et armé du régime iranien. Israël a ciblé ceux dont elle considérait qu'ils avaient une responsabilité dans l'attaque du 7 octobre. Là, nous assistons à un déclenchement d'une forme de guerre directe, même si l'Iran dit que c'est aïe, c'est terminé, un partout, la balle au centre, si je me puis permettre, que c'est la riposte par rapport à l'attaque israélienne ou imputée à Israël de l'ambassade ou du consulat iranien à Damas le 1er avril dernier. On voit bien que l'Iran teste maintenant Israël, les pays de la région sunnite et la communauté internationale. Donc il ne peut pas y avoir de faiblesse face à ce rapport de force que le régime des Mollahs, qui par ailleurs veut la fin de la disparition d'Israël, est en train de chercher à nous imposer.
Donc pour vous, c'est que le début en fait de cette guerre.
Je pense qu'il faut prendre là aussi la dimension des changements. Alors les analystes, les historiens le diront plus tard. Il faut toujours faire évidemment attention aux analyses à chaud. Le 7 octobre a de mon point de vue une importance aussi considérable, voire sinon plus, si je suis les analyses de Gilles Kepel qui connaît bien ces sujets. Le 7 octobre est une date fondamentale, c'est un basculement par la sauvagerie, la nature de l'attaque du Hamas. On voit bien qu'on est dans un rapport de force depuis le début avec l'Iran. Donc oui, nous sommes qu'au début d'une très grande tension qui nécessite évidemment de la maîtrise, de beaucoup de lucidité, mais du courage aussi.
Alors, Monsieur le Premier ministre Manuel Valls, justement, cette grande puissance économique dont la France et les États-Unis font partie se disent prêtes à prendre des mesures face à d'autres initiatives de déstabilisation. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette annonce, autant sur les initiatives de déstabilisation que sur les mesures possibles ? Est-ce qu'on parle là clairement d'un engagement militaire de la part de la France ?
Je ne sais pas. Je pense qu'il y a toute une série de mesures, mais elles n'ont pas toujours été très efficaces ou elles ont été abandonnées, qui consistent à frapper économiquement le régime iranien. Et puis ensuite, il faut qu'il y ait un dialogue, une coopération avec les Israéliens, les Américains, tous ceux qui sont inquiets des buts du régime iranien, pour voir si demain, ils ne l'ont pas encore, mais ils avancent, les Iraniens obtenaient la capacité nucléaire, si la diplomatie ne suffisait pas à arrêter ce processus terrible, bien alors ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il faut frapper directement les sites nucléaires, les sites industriels qui donneraient cet avantage à l'Iran. Donc c'est pas une petite affaire, vous voyez. Donc,
c'est des choses qui peuvent se faire rapidement, ça, de frapper justement comme ça en plein cœur.
Les Israéliens, d'une manière ou d'une autre, ont déjà frappé les sites du Hezbollah, ou des sites industriels, mais je ne sais pas si c'est une question de rapidité. Il faut que la coalition soit la plus large possible. L'Iran est très isolé, condamné partout dans le monde. Donc je ne sais pas si c'est une question de temps, mais c'est une question d'efficacité et de lucidité, et que les pays regardent évidemment à la fois avec intérêt et inquiétude la réaction des uns et des autres par rapport à l'Iran. Tout signe de faiblesse donnerait la possibilité au régime des Mollahs de poursuivre d'une manière ou d'une autre l'action de déstabilisation. Et puis l'Iran, on sait, par le passé, a été au cœur de l'organisation d'attentats en Europe.
Donc, Manuel Valls, vous êtes extrêmement prudent. Manuel Valls, vous avez parlé de la Jordanie, justement, les Mollahs qui ne sont pas forcément soutenus par les pays voisins arabes. La Jordanie qui a abattu quelques drones et engins volants cette nuit. Ça, si, c'est surprenant, non ?
Oui et non, parce que la Jordanie a un accord de paix avec Israël. C'est un pays sunnite. Et la Jordanie, comme l'Égypte d'ailleurs, ne peuvent pas se permettre, comme les autres pays de la région, notamment les pays de Golfe, une déstabilisation de la part de l'Iran. Regardez encore, et moi je pense que la communauté internationale de ce point de vue-là n'est pas suffisamment active, ce qui se passe en mer Rouge avec l'action de ces groupes chiites yéménites soutenus par l'Iran, les Houthis, qui attaquent des navires de tous les pays et qui nous obligent, nous, à être présents avec d'autres pour protéger la navigation commerciale internationale.
Alors justement, chez nous, Manuel Valls, la France recommande à ses ressortissants de quitter temporairement l'Iran. Est-ce que vous pensez que les Français qui sont présents dans cette région du monde, et plus particulièrement du côté d'Israël, sont menacés et auraient tout intérêt à revenir en France ?
Il y a des messages qui ont été passés à l'égard de nos ressortissants dans tous les pays de la région. C'est la méthode en termes de prudence. Là, vous m'interrogez, je crois, sur nos compatriotes franco-israéliens. C'est à eux de faire le choix, mais j'en connais beaucoup. Beaucoup se sont exprimés, d'ailleurs, sur votre antenne aujourd'hui. Ils ont aussi pu voir la grande capacité d'Israël à détruire 99% avec l'aide des alliés, des missiles et des drones qui étaient envoyés vers Israël. Non, moi, je pense qu'il y a à la fois de la crainte, mais aussi beaucoup de lucidité, beaucoup de courage de la part des Israéliens, donc de nos compatriotes franco-israéliens qui sont sur place. Nous devons, nous, être aux côtés d'Israël dans cette guerre qui nous concerne aussi.
Concernant l'aspect politique en France, on a vu que la France insoumise demande le cessez-le-feu, justement, et la désescalade. La France insoumise est peut-être un petit peu mal à l'aise par rapport à ce qu'elle avait dit, justement, voilà, 6 mois au préalable, par rapport à l'intervention du Hamas sur Israël. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette demande de LFI ?
Tous les diplomates aujourd'hui appellent à la désescalade parce que il y a une crainte sur ça, sur la propagation là d'un conflit, alors que nous connaissons déjà une guerre au moins, mais une guerre très importante sur le sol européen. Mais une chose est de trouver les voies diplomatiques, l'autre est d'être lucide sur les buts de l'Iran. Quant à la France insoumise, très honnêtement, leur soutien au Hamas, leur vision de la diplomatie, la manière dont ils sont complaisants à l'égard de toutes les formes d'islamisme dans notre société me laisse à penser que de toute façon, leur vision est altérée et sur ces sujets-là, elle ne me paraît absolument pas correspondre non seulement à ce qu'il faut, mais aux intérêts vitaux de notre pays.
Est-ce que vous craignez que cette attaque de ce week-end en Israël entraîne de nouveaux actes antisémites supplémentaires en France ?
Ils sont déjà très nombreux. Il est évident que, d'une manière générale, tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui se passe au Proche-Orient provoque évidemment les actes de ceux qui haïssent les Juifs, Israël et aussi nos valeurs démocratiques. Et donc la France, donc, il faut redoubler de prudence. Et puis derrière cela, nous savons, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur les différents algorithmes, on voit bien que l'Iran, la Russie, la Chine, bref, tous ceux qui ont des intérêts contre nous cherchent à agir d'une manière ou d'une autre pour déstabiliser nos démocraties.
Une dernière question, Manuel Valls. La semaine qui arrive, là, à quoi doit-on s'attendre, selon vous ?
Je ne sais pas si c'est une question de jours ou de semaines, au singulier ou au pluriel, mais il faut bien comprendre que nous sommes rentrés dans un autre monde, une nouvelle fois, que la guerre est là, que la part tragique de l'histoire s'invite, qu'il faut se réarmer, qu'il faut lutter contre toutes les formes de terrorisme et de fondamentalisme. Donc nous sommes dans un autre monde, il faut être fort. Il faut être fort, uni, il faut accomplir ce sursaut. La France est un grand pays, elle en a les capacités, mais il faut être très lucide sur tous les risques qui sont devant nous.
Manuel Valls, ancien Premier ministre de la France, merci d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 soir week-end. Bonne soirée à vous et merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Merci, bonne soirée.
Europe 1 nuit week-end. Guillaume Lariche.
Romans-sur-Isère a rendu ce soir un dernier hommage à Zacharia, ce jeune de 15 ans tué d'un coup de couteau, voilà 5 jours, pour s'être interposé dans une bagarre. Un rassemblement en sa mémoire dans le quartier de la Monnaie où l'émotion est vive, Noémie Loisel.
Au pied d'un immeuble, là où le jeune garçon a perdu la vie, reposent quelques fleurs blanches. Autour d'un petit buffet, de nombreux habitants, des amis sont venus se recueillir pour soutenir la famille. Driss était l'ami, le maître d'apprentissage de Zakaria.
Si tout le monde est là, c'est que tout le monde a mal au cœur, il ne méritait pas du tout ça. Il a fait son possible pour justement éviter une bagarre, il a voulu séparer. Et au final, c'est lui qui a pris le coup, donc c'est pas normal.
5 jours après la mort de l'adolescent, comme beaucoup d'habitants du quartier, Samira, membre de la famille, ne comprend pas ce degré de violence.
Il avait plein de projets. Il avait le projet de passer lui aussi son bac, avoir son diplôme en tant que plaquiste, passer son permis comme tous les jeunes. Qu'un parent vienne avec ses enfants et faire ce qu'ils ont fait, non, c'est inadmissible et c'est impardonnable. C'est un assassinat et avec préméditation. J'espère que la justice va faire son travail.
Pendant le rassemblement, plusieurs habitants ont aussi glissé quelques billets dans cette boîte en carton déposée sur la table du buffet. Dessus, la photo de Zakaria et cette inscription « À jamais dans nos cœurs ». Vendredi prochain, tous se réuniront une nouvelle fois pour la marche blanche. Roman sur Isère, Noémie Loisel, Europe 1.
Et dans l'enquête sur cette affaire où Zakaria a perdu la vie, un père, ses deux fils et son gendre ont été mis en examen et incarcérés. L'un d'eux a reconnu à demi-mot avoir porté le coup de couteau à la victime. Europe 1, 22h15, des violences dans le football amateur. Le week-end dernier, un arbitre a été agressé par 3 jeunes de 15 ans de l'AS Bellecour-Perrache, près de Lyon. La victime a reçu 5 jours d'interruption totale de travail et a porté plainte. Les agresseurs ont écopé de 20 ans de suspension de toute licence officielle dans le football. Et le club de la banlieue lyonnaise a été exclu de toute compétition jusqu'à la fin de saison. Un baigneur est décédé aujourd'hui à Lèche-Cap-Ferrest, en Gironde. La victime de 41 ans a nagé dans une eau non surveillée, malgré une alerte maximale au risque de baïne. Ce sont ces trous d'eau qui se forment en bordure d'océan. Durant la dernière saison estivale, 6 baigneurs sont morts dans des baïnes. Nouvelle-Aquitaine. Et puis une vague de violences sexistes et sexuelles à l'hôpital prend un nouveau tournant avec de plus en plus de témoignages sur les réseaux sociaux. Mercredi, une enquête de nos confrères de Paris Match a révélé des accusations de harcèlement sexuel formulées par l'infectiologue Karine Lacombe contre Patrick Peloux. L'urgentiste est sorti de son silence ce matin sur Instagram et se dit sidéré par ce qui relève, selon lui, de la diffamation.
Europe 1 Nuit Weekend. Guillaume Lariche.
Et avec le retour des beaux jours, les moustiques le sont aussi. Et depuis 20 ans, les moustiques tigres gâchent nos repas en extérieur. En Occitanie, 90% de la population y était exposée l'an dernier. Alors à l'aube d'une nouvelle saison compliquée, les Toulousains regrettent le retour du moustique tigre de plus en plus précoce. Reportage de notre correspondant Europe 1 dans le Sud-Ouest, Alexis Bourdon.
Dans ce jardin du centre-ville de Toulouse, les habitants n'en peuvent plus. Chaque année, c'est la même rengaine. Le moustique tigre se fait de plus en plus envahissant.
On ne peut pas apprécier être dehors. On ne peut pas être dans le parc tranquille. On va se dire au bout de 15 minutes, il faut rentrer. C'est pas agréable pour personne.
On a un jardin partagé où il y a pas mal de moustiques. Du coup, c'est sûr que quand on descend en bas avec la petite, par exemple, pour profiter du jardin, c'est compliqué l'été.
Le moustique tigre, alors là, je voudrais les éradiquer, mais par des méthodes naturelles.
Pour s'en débarrasser sans produits chimiques, une entreprise toulousaine a mis au point des pièges qui ressemblent à de très gros pots de fleurs. Objectif, selon Romain Tibérien, co-créateur de l'appareil, berner le moustique.
On vient copier en fait le comportement d'un humain en extérieur, c'est-à-dire on vient copier finalement l'odeur de notre peau et surtout on vient copier la respiration humaine par une très faible émission de CO2 qui va permettre d'attirer les moustiques à 10, 15, 20 mètres.
D'ici un mois, la mairie de Toulouse va installer 500 pièges dans des quartiers particulièrement touchés par l'invasion de moustiques.
Europe 1, bientôt 22h18, le football avec le Bayer Leverkusen, sacré champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire. Le club d'Outre-Rhin met fin à 11 ans de victoire du Bayern Munich dans le championnat de foot allemand. En France, 29e journée de Ligue 1 avec Lyon-Brest ce soir, actuellement la 75e minute de jeu. 3-2 pour Brest face aux Lyonnais. Cet après-midi, Nantes a battu le Havre 1-0 et match nul un partout entre Clermont et Montpellier. Rugby, le tournoi des 6 nations féminins, 3 matchs, 3 victoires pour l'équipe de France. Les Bleus ont surclassé l'Italie 38-15 et occupent provisoirement la 2e place derrière l'Angleterre. Les Françaises affronteront le Pays de Galles dimanche prochain. Enfin, chez les hommes, le Stade Toulousain s'est qualifié cet après-midi pour le dernier carré de la Champions Cup de rugby. Toulouse a gagné son billet en battant les Anglais d'Exeter 64-26. Le club du Sud-Ouest recevra en mai les Londoniens d'Harlequins.
Europe 1 Nuit Weekend. Guillaume Lariche.
On passe à la une de vos journaux pour demain. Les Échos se focalisent sur les enjeux des Jeux Olympiques de Paris pour Emmanuel Macron à bientôt 100 jours de la cérémonie d'ouverture. Le chef de l'État poursuit demain sa préparation olympique avec l'inauguration du Grand Paris. Le grand édifice parisien à côté des Champs-Élysées accueillera les épreuves d'escrime et de taekwondo. Le journal La Croix lui s'intéresse au 5e anniversaire de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le quotidien se penche sur l'enquête judiciaire toujours en cours pour connaître les cause du sinistre. Et puis enfin, Libération publie un dossier sur l'attaque de drones iraniens contre Israël. Le journal soulève une question, jusqu'où peut aller l'escalade dans la région ? Le temps à présent. Bonsoir Anthony Kazmarek, un temps agité et plus frais pour demain lundi.
Bonsoir Guillaume, et je vais d'abord commencer par l'agitation puisque nous aurons demain trois départements en vigilance orange pour vent violent, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, un coup de vent entre 11h et 18h jusqu'à 100-110 km/h en rafale, y compris dans les terres. Au passage, une perturbation pluvieuse qui sera déjà là en matinée près des côtes de la Manche. Et ces pluies vont traverser une bonne moitié nord du pays, en tout cas le nord de la Loire, d'ici à demain soir, avec du vent aussi dans les autres départements qui ne sont pas en vigilance. Quelques averses orageuses entre les Pyrénées et le Massif central, mais aussi dans le nord-est en matinée, entre l'Alsace, la Franche-Comté et le nord des Alpes. Et puis dans les autres régions, plutôt des éclaircies, malgré quelques passages nuageux dans l'après-midi entre le Poitou-Charentes et la Bourgogne. Et puis les températures, relativement douce encore au réveil, entre 6 et 15 degrés, 9 dans la capitale, mais dans l'après-midi, forte baisse des valeurs, nous serons quasiment partout en dessous de 20 degrés, sauf dans le quart sud-est où vous aurez encore 21 à 26, 26 à Nîmes, 23 à Lyon, mais plus que 19 degrés à Toulouse, 18 à Bordeaux et Strasbourg, 15 degrés à Paris et Metz, et 12 pour Lille et Rouen.
Europe 1, 22h20, et à l'image des températures, elle aussi est très douce. Valérie Darmon vous accompagne pour la libre antenne sur Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Bonsoir Valérie, on peut vous appeler au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21.
Bonsoir Guillaume, merci beaucoup de ce joli compliment. J'espère être un soleil dans vos cœurs ce soir dans la libre antenne d'Europe 1. On vous retrouve tout à l'heure à 23h pour un nouveau point sur l'info. À tout à l'heure.